êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Nous rendons grâce à Dieu une fois encore pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Tous les jours, il nous rappelle et nous prouve à nouveau sa fidélité. Et nous expérimentons tous les jours à quel point il est fidèle quand il veille sur sa parole. Nous découvrons tous les jours comment, dès qu'on obéit au Seigneur, dès qu'on le craint, il est puissant pour faire au-delà de nos attentes. Et on finit même par avoir honte, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive, de voir à quel point Dieu nous gave alors que nous ne le méritons pas. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'utilise pas la parole de Dieu, on a parfois l'impression de courir après la bénédiction. On prie et puis on a l'impression que Dieu ne nous répond jamais parce qu'il est sourd ou trop occupé. Et conclusion, on est parfois même un peu révolté contre Dieu.
Or, Dieu nous dit clairement que la puissance, l'efficacité de nos prières dépend de la foi avec laquelle nous les faisons. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la prière fervente, donc faite avec foi du juste, a une grande efficacité. Il vaut mieux penser avec foi à la capacité de Dieu en termes d'exaucement que de réciter 1000 phrases sans aucune conviction. Beaucoup de gens prient longtemps, mais sans aucune conviction, ça n'a pas d'efficacité. Mais la prière qui est faite avec foi, où on réalise ce qu'on dit, où on vit ce qu'on dit, où on croit ce qu'on dit, a une grande efficacité. Quand dans chaque circonstance de votre vie, vous êtes capable de vous rappeler que Dieu est la solution et que votre cœur l'invoque, s'abandonne à lui, compte sur lui pour la solution, vous voyez toujours des résultats. Et que la prière soit fervente, c'est-à-dire faite avec foi, veut aussi dire qu'elle est faite en se rappelant de toute la parole de Dieu, en la considérant comme étant vraie. Notre prière doit être en harmonie avec tout ce que Dieu nous dit, de ce qu'il est, de ce qu'il aime. Dieu ne peut pas nous dire que si nous sommes en rancune avec quelqu'un, notre prière est vaine et que nous disions prier avec foi alors que nous sommes en rancune avec quelqu'un.
Ni ma ou doje le mende le nu do mi do kenwea allo mi ma ndele do ayika mi to mbo mi khode ole de ni oku dasa hoto bo e kho e me mi de oto mbo mi ma so wa di nu a mbo do je mi de mi do de kho we o ndé ni oku fi de bo.
Dieu dit par exemple que dans un couple on doit se pardonner, on doit être en bonne entente afin que nos prières soient efficaces. Donc un couple dans lequel il y a des disputes où il n'y a pas la paix, chacun d'entre eux prie mais il perd son temps, il n'aura aucun effet parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon, il n'y a donc pas les conditions de l'exaucement réunies. Et plus généralement, le Seigneur dit que si tu es en train de vouloir prier et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre un de tes frères, tu dois arrêter la prière, aller faire la paix avec lui avant de venir prier. Mais Dieu aurait pu vous dire que pendant que vous êtes en train de prier, vous vous rappelez que vous avez la paix avec quelqu'un, finissez votre prière et allez faire la paix. Mais il dit d'arrêter la prière. C'est-à-dire, dit, ça ne sert même à rien d'être en train de parler si vous n'êtes pas en paix avec les autres. Non, il ne peut pas y avoir de prière fervente si celui qui dit faire une prière de foi n'est pas en paix avec les autres, refuse de pardonner les gens. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent, moi j'ai la foi, mais ils décident qu'ils ont la foi, alors que leur foi n'est en rien en harmonie avec la parole de Dieu. La foi ne vient pas de votre conception ou de vos croyances, elle vient de la parole de Dieu. Donc, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas avoir de la foi parce que la foi vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, dans notre pays, beaucoup de gens passent tout leur vendredi à faire des veillées de prière, ils jeûnent, ils prient, sans aucun effet parce que ce n'est pas de la foi. La foi s'appuie sur la parole. Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, pas des hommes, pas du pasteur, de la parole de Dieu. C'est pas parce que vous êtes dans une grande église que vous êtes un homme de foi. C'est pas parce que vous avez des sacrements, je ne sais trop quoi d'autre, que vous êtes un homme de foi. Vous êtes un homme de foi parce que vous craignez Dieu, parce que vous connaissez Dieu.
Vous êtes
un homme de foi parce que votre pensée, vos paroles, vos actions sont guidées, sont orientées, sont en obéissance à ce que la parole de Dieu dit. Ne vous demandez pas comment je vais faire pour retenir toute la loi dans la tête. Personne ne retient toute la loi dans la tête. Mais Dieu est merveilleux. L'une des vocations du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner, de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Donc, c'est ce qu'on appelle la conviction du péché. En direct dans l'action, le Saint-Esprit te signale la loi auquel tu dois faire attention. Quand tu veux comprendre, quelqu'un t'a énervé, tu as envie de le gifler. Tu n'as pas des fois à faire. Le Saint-Esprit te dit en même temps, tu n'es pas censé faire ça. Tu dois répondre à la violence par l'amour. Le Saint-Esprit, il fait son boulot. Il te dit toujours en direct quoi faire. Mais si tu n'es pas habitué à l'écouter, si tu n'as pas crucifié ton moi, si tu fais tout ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux, et que tu n'as pas encore atteint le niveau, tu prends plaisir à faire ce que lui il a dit. Pendant qu'il te parle, tu t'entêtes et tu fais ce que tu veux. Quand tu as fini de faire ce que tu veux, tu te casses proprement la gueule. C'est quand tu t'es cassé la gueule que tu dis que tu es chrétien, où est ton Dieu? Mais tu avais déjà parlé. Quand on t'a remis le papier là à signer, ton cœur a commencé à battre. Tu as perdu la paix du cœur. Or, la paix du cœur, c'est l'habit de Dieu dans notre cœur. Le Saint-Esprit avait déjà dit, cette affaire la laisse d'abord. Calme-toi d'abord. Est-ce que tu as demandé mon avis? Mais tu étais tellement pressé. Tu n'as pas voulu entendre cette voix de ton cœur. Tu as signé, tu as payé. Quand le problème vient, tu demandes votre tête. Non. Il faut être prompt à faire ce que Dieu vous dit de faire. C'est la baguette magique de la bénédiction. Et quand vous connaissez cette baguette magique, que vous la pratiquez, vous verrez partout la bénédiction. Et vous verrez partout la bénédiction à condition que vous sachiez reconnaître la bénédiction. Et c'est un peu sur ça que je veux enseigner aujourd'hui. Je vais enseigner pour vous aider à repérer la bénédiction. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont ingrats avec Dieu, beaucoup de gens sont frustrés, beaucoup de gens sont découragés, c'est parce qu'ils ont sincèrement l'impression que Dieu n'a rien fait. Ou que Dieu n'est en train de rien faire. Alors que c'est fou. C'est tellement fou. Vous êtes un peu comme des bébés qui veulent avoir des bonbons. Quand on leur donne du miel, ils disent non. On leur donne des biscuits, ils disent non. On leur donne du chocolat, ils disent non. Il ne connaît qu'une seule marque de bonbons qu'il a vu chez sa maman. Si ce n'est pas cette marque-là, cette couleur, il dit qu'il ne veut pas ça. Quand on lui a encore rien fait. Ou bien l'habitude de prendre un petit gâteau de 50 francs mal fait là quelque part. Un jour on lui donne un vrai gâteau, il dit que c'est pas la même chose, ça là c'est pour ton pote, il veut pas goûter. Il connaît pas la bénédiction. Quand tu ne connais pas la bénédiction, on peut te la donner, tu ne peux pas la reconnaître. Tu peux pas en jouir. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde aussi loin que tu peux. Tout ce que tu peux voir, Dieu te le donnerait en possession. Ce que tu ne peux pas voir, Dieu ne peut pas te le donner. Pour une raison simple, si tu es aveugle, je prends 2 liasses de 1 million, ça fait 2 millions. Et je les passe devant tes yeux. Tu n'es pas censé faire comme ça parce que tu n'as pas vu. Tu vas prendre? Même si on met 1 milliard sur tes yeux comme ça, on aligne 1 milliard devant toi, tu as vu. Tu vas prendre.
Ça veut dire que
quoi qu'on te donne, pour toi ça ne change rien si tu es aveugle. Or Jésus dit que vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez rien. Il dit qui est aveugle sinon mon serviteur. Sinon mon serviteur. La plupart des serviteurs de Dieu sont aveugles. C'est pas pour rien qu'en fond on dit aux gens qu'un clin rounoukoun. Ouvrez les yeux. Les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Oh, si tu n'ouvres pas les yeux, même si on t'a plongé dans une fosse à or,
tu vas être en train de pleurer.
Et non, il y a gay. Et non, aux autres aussi, cadomeo. Nous ne nous coutons sous des sous-bâmes, nous ne pouvons pas. Ah, c'est moi d'un
peu. Oh, la plupart des gens sont aveugles.
Le bon, mais qu'est-ce qu'ils nous coutons?
La Bible dit qu'ils sont aveugles.
Oui, oui, oui,
ils ont des yeux, ils ne voient pas.
Oui,
ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont encore pour comprendre, ils ne comprennent pas. Parce que Satan fait que s'ils comprennent, ils obéiront. Et s'ils obéissent, ils seront bénis. Donc, en les rendant aveugles, ils s'assurent que vous ne soyez jamais. Et donc beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre vous ici, êtes aveugles sur la bénédiction. Et si vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas la prendre. Si vous ne la voyez pas, là où vous deviez en joie, que ton cœur soit en joie, tout le temps en joie, la volonté de Dieu pour toi, loue Dieu en toutes circonstances. Mais comment combien d'entre vous arrivez à être en joie tout le temps? Vous ne pouvez pas être en joie si vous ne voyez que des problèmes. Pour être en joie, il faut voir la bénédiction. Mais si tu ne vois pas la bénédiction, ton comportement dépend de ce que tu vois. Mais Dieu bénit tout le monde tous les jours. Mais beaucoup de gens ne voient pas. Donc comme ils ne voient pas, ils se comportent en fonction de ce qu'ils ont vu. Vous avez tous des yeux laser pour voir vos problèmes. C'est des microscopes astronomiques que vous avez pour voir vos problèmes. Le plus minuscule de vos problèmes, même les problèmes à venir, vous les sentez de loin. Tellement vos yeux sont puissants pour voir le problème. Mais quand il s'agit de la bénédiction, vous devenez aveugle. Pourquoi vous êtes aveugle? Parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Et vous confondez la bénédiction et ce que vous désirez. Nous allons lire 2 Corinthiens 9. Le verset 8. Si je vais choisir un verset de la Bible, comme étant mon verset favori, je crois que ce sera ce verset-là. Non, j'aime toute la Bible, mais c'est mon verset préféré. 2 Corinthiens 9. Verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Il y a différentes versions.
Mais
l'idée de ce verset, c'est, il y a certains versets qui disent tous les jours, quels que soient les besoins, quelles que soient les circonstances, Dieu est capable, Dieu a le pouvoir de faire venir à vous toutes sortes de bénédictions et de grâces, de sorte que vous ne manquiez jamais de rien et qu'en plus vous en ayez tellement encore pour faire toutes les bonnes œuvres. C'est une phrase dans laquelle il n'y a que des superlatifs. Pas les jours des jours. Pas les jours seuls, les jours piments, je ne sais pas les jours quoi dire là. C'est pas les bons jours, c'est pas les mauvais jours. C'est pas les dimanches. C'est pas les jours de jeûne. Tous les jours. Est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui parle, hein? C'est pas un plaisantin. Et c'est pas un politicien béninois. Il n'est pas en train de faire des promesses électorales. C'est le Dieu qui veut sa parole pour l'accomplir.
Et
ce que sa bouche a dit, sa main il veille pour l'accomplir. Il a dit, et je répète, c'est pas un politicien béninois. Parce qu'à force d'entendre les politiciens béninois, les Bénois ne croient plus à rien. Ça, c'est Dieu qui parle. L'Éternel, le Dieu des armées. Il ne s'est jamais trompé. Et ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Il veut tous les jours, quel que soit le besoin, quel que soit ce qu'il te faut, quel que soit ce qu'il te faut, est-ce que vous réalisez
le sens?
Nous debout.
Il
n'y a pas un délai. Nous debout.
Ah, mais dans mon dit, caca de mettre les fonds de
tous les jours. Quel que soit le besoin. Dieu a la capacité.
C'est
pas, il va faire des efforts. Il a la capacité. Non pas de vous faire chercher, non pas de vous faire trouver, mais. de faire venir à vous.
Et
vous n'irez pas chercher la bénédiction. La bénédiction viendra à vous. De faire venir à vous toutes les sortes de grâces et de bénédictions.
Toutes
les grâces et les bénédictions. L'idée ici, c'est les bénédictions à la fois spirituelles et tangibles et les bénédictions matérielles. Dieu est capable de les faire venir à vous tous les jours. De sorte que tu ne manques jamais de rien. Que tout ce qu'il te faut arrive à point. Comme Dieu n'arrive jamais trop tard, jamais trop tôt, ça ira toujours à point. Il va aussi couvrir tous tes besoins. Mais il va même te donner un supplément pour que tu couvres toutes les bonnes œuvres. Alors, quand on ne connaît pas Dieu, qu'on lit ça, on se dit que Dieu doit être en train d'exagérer parce que c'est évident qu'on ne le vit pas. Je dois confesser aujourd'hui que Dieu ne ment jamais, il le vit. Il le fait, moi je le vis tous les jours. Quand vous aurez bien compris ce que ça veut dire, vous pourrez avoir foi en Dieu, vous connaissez. Vous serez capable de déguster Dieu parce que vous saurez le reconnaître. D'abord, c'est tous les jours. Que tu aies prié, que tu n'aies pas prié. Que tu aies jeûné, que tu n'aies pas jeûné. Que tu aies péché, que tu n'aies pas péché. Même si tu es tueur. Tous les jours. Quelles que soient les circonstances. Dieu fait venir à toi ce qu'il te faut. Première chose, ce qu'il te faut. Pas ce que tu veux. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Vous demandez à Dieu ce que vous voulez. Et vous guettez ce que vous voulez. Oh, Dieu n'a pas promis de vous donner ce que vous voulez. Il a promis de donner ce que te faut. Il y a une radicale différence entre ce qu'il te faut et ce que tu veux. Ce que tu veux peut être par hasard ce qu'il te faut quand tu es sage. Mais ce que tu veux n'est pas toujours ce qu'il te faut. Et il est fréquent que ce qu'il te faut, tu ne le veuilles pas du tout. Quel enfant doit aller au CEP? Qui ne doit pas faire de faute d'orthographe? Il a besoin que la maîtresse lui fasse dicter toutes les matins avec des coups de bâton pour mémoriser les mots. Pour ne pas avoir, comme j'en vois aujourd'hui, des étudiants en licence de lettres en train de parler charabia à la présidence alors qu'ils sont encore étudiants, il faut que ça se fasse.
Charabia, Miroa. Ils ne sont pas là, eux, nous l'ont aussi terminé.
Pour que ce ne soit pas le cas, les enfants ont besoin d'une certaine discipline. Ils ne veulent pas la discipline. Mais ils ont besoin de la discipline. Si Dieu aime un enfant, il doit veiller à ce que l'enfant ait ce dont il a besoin. Si un enfant a un comportement coupable, qu'il faut rapidement décourager, à moins que ça ne lui pourrisse la vie demain. C'est pour ça que Dieu dit qu'il aime bien, qu'il châtie bien. C'est un acte d'amour pour Dieu que de pouvoir rapidement, à son besoin de discipline de
correction.
Toi, tu as envie de gagner des gros marchés. Alors que tu ne peux même pas gérer 100 000 francs. Et tu veux des marchés de 20 millions, de 30 millions. Quand Dieu permet que tu n'aies qu'un petit marché, c'est pas qu'il n'a pas exaucé. Il a pourvu à ton besoin d'avoir les choses petit à petit pour les maîtriser
d'abord.
Si tu t'entêtes que par des moyens frauduleux, tu vas chercher de force un gros marché. Quand Dieu permet que tu échoues, qu'on te mette en prison 3 mois, il a pourvu un de tes besoins, que tu réalises qu'il y a le feu dedans, que tu apprennes à ne plus forcer les choses comme ça.
Et
en général, dès que tu comprends la leçon, le Seigneur vient de telle circonstance pour te
libérer. Tu es un
braqueur, tu as tout braqué, ça t'a tout marché.
Maintenant,
les policiers sont fâchés et tuent les
bandits.
Tu n'as même pas donné ta vie à Jésus. Et ça t'a prévu que demain, là, on t'abatte pour que tu ailles rapidement en enfer. Si Dieu permet que dans le vol d'aujourd'hui, là, on t'enferme pour te mettre en prison, il vient de pouvoir de manière merveilleuse dans un grand besoin.
Surtout
que là-bas, il a prévu peut-être les pasteurs qui visitent les prisons là, qui vont t'évangéliser là-bas, tu vas le rencontrer. Est-ce qu'on va dire que Dieu n'a pas
pourvu à tes besoins
en te faisant tabasser, mettre en prison?
Tout
concourt au bien de ce qui
est Dieu.
Dieu a toujours le contrôle de la situation.
Les
choses ne vous arrivent pas parce que Dieu ne peut rien faire. Les choses ne vous arrivent que parce que Dieu les a permis.
Où
il les a voulu, c'est la volonté parfaite de Dieu.
Où
il les a permises. Et s'il les permet, c'est parce qu'il sait que vous en avez besoin. Vous pouvez ne pas le vouloir. Ça, c'est votre problème. Je m'en fous de ce que mon enfant veut. Je sais ce dont il a besoin. C'est ça la différence entre un père responsable et un père irresponsable.
La
maman irresponsable laisse l'enfant ne pas aller à l'école, faire école missionnaire et cache au papa en disant qu'il est en train de faire le bien à l'enfant. Ça, c'est une maman irresponsable. C'est pas une maman responsable.
Une
maman méchante.
Donc,
le ton enfant devient un coureur de jupons, un drogué, un incapable, et c'est encore toi qui pleures, c'est toi qui l'as gâté. Pourquoi? Parce qu'un parent a l'autorité et le devoir d'encourager le bien chez l'enfant, de décourager le mal.
Même
avec Satan, comme nous l'avons vu avec Job, même Job n'aurait pas été persécuté si Dieu n'avait pas autorisé. Mais à la fin, la persécution, elle a été bénie au centuple.
Donc,
même les féticheurs, même les sorciers, même les charlatans ne peuvent absolument rien vous faire si Dieu n'a pas permis.
Absolument rien. Donc,
quoi qu'on t'ait fait, c'est que Dieu l'a permis. Si Dieu n'a pas permis, il ne peut rien faire pour le faire, à moins d'être plus fort que Dieu.
Ce
que je n'ai jamais vu. Mais le problème, c'est que dans vos problèmes, vous croyez que c'est parce que Dieu ne pouvait rien faire que vous avez le problème. Mais Dieu peut toujours faire quelque chose. S'il ne l'a pas fait, c'est que tu as besoin de ce qui t'arrive. Ça te plaît pas, c'est que tu en as besoin. Alors, si tu attends d'avoir ce que tu désires pour louer Dieu, tu ne vas jamais louer Dieu. Mais si tu apprends avec sagesse à regarder derrière les apparences, tu vas découvrir que bien souvent, si tu veux être honnête, Dieu ne permet que ce qui est bon pour toi. Et quand quelque chose t'arrive, quand tu prends un peu de recul, moi, quand quelque chose m'arrive, je me demande toujours, je me mets à la place de Dieu, pourquoi il a pu permettre ça? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Mais pourquoi il a permis ça? Ça ne prend pas deux minutes, j'ai les réponses. Et souvent, quand on me demande quels sont les mauvais souvenirs de ma vie, et ça, j'ai toujours eu la chance, même avant de connaître Dieu à cet effet-là, je n'en ai pas. Il n'y a rien qui soit passé dans ma vie que je regrette. Si ma vie était à revivre, je voudrais la revivre intégralement comme ça. Je ne regrette rien. Parce que tout ce dont je peux jouir aujourd'hui n'aurait pas été été possible selon ce que j'ai souffert hier. Et ce qu'il me faudra avoir comme bénédiction demain est impossible si je ne paye pas le prix que je paye aujourd'hui. Mais parce que dans tout échec, tu n'as pas eu ce que tu voulais. Mais tu sais comment éviter ce que tu ne veux pas. Vous ne savez pas que parfois dans la vie, le Seigneur vous donne des légumes amers juste pour vous préparer au moins, vous donnera le miel. Même après avoir mangé les légumes amers, quand tu bois de l'eau simplement, tu as l'impression que c'est
sucré. Alors tu es gossé à ma vie, ma cousu, le bon boutro.
Mais quand on te donne le miel, le jour où on va te donner de la, du sucre, tu vas dire que ce n'est pas sucré, tu vas faire le caprice. C'est comme les enfants, des moments disent, oui, mon enfant n'aime pas boire tel médicament, c'est des bêtises. Tout enfant boit ce qu'on l'oblige à faire. Si votre enfant, vous lui donnez l'habitude, dès qu'il ne veut pas que je ne veux pas le faire, toute sa vie sera capricieux. Pourquoi l'enfant n'est jamais mort? On est obligé à faire ce qu'il faut.
Et
mais c'est une bénédiction pour un enfant. Regardez, Paul nous dit ceci.
Paul
dit qu'il a appris à vivre dans le dénuement et dans l'abondance. Mais c'est une grâce que de pouvoir être tout terrain. Donc, Dieu ne nous donne que ce qui est bon pour nous. Mais si vous ne savez pas reconnaître que Dieu ne fait que le bien pour vous, et que même quand ça fait mal, tu dis, Seigneur, ça fait mal, je sais que c'est bon, mais aide-moi à supporter. Parce qu'en fait, quand tu comprends ce principe-là, quoi qu'il t'arrive, tu dis d'abord merci à Dieu. Tu dis, tu sais que c'est bon. Bon, maintenant, comme c'est un peu dur là, je ne demande pas de ne pas le faire. Parce que je sais que c'est bon pour moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anesthésie au moins? Quand tu es blessé et tu es en train de saigner, si on ne te fait pas répondre, tu vas mourir. Donc tu ne peux pas prier pour ne pas être suturé. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, si vous me faites la couture,
non,
mettez-moi de l'anesthésie. Et après l'anesthésie,
bon,
donnez-moi des anti-inflammatoires pour que je ne sente pas trop la douleur. Et effectivement, si on te donne ça, surtout si tu as un peu le moyen de prescrire le bon médicament, tu t'en sors plus ou moins sans trop sentir. Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu va faire ce qu'il faut. Il doit opérer. Beaucoup d'entre vous, vous fuyez la table d'opération. Vous priez, vous dites, Seigneur, bénis-moi. Dieu dit, amenez-le. Je vais mettre la bénédiction. Dès qu'il touche avec une aiguille, vous le fuyez la table d'opération. À la première difficulté, on fuit l'église. À la première épée du Saint-Esprit qui touche un peu votre cœur, vous fuyez. On ne peut pas vous dire si pour ça vous avez l'air, vous partez. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de votre présence, moi non. Je n'ai besoin que de la grâce de Dieu. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de votre présence, moi non. Moi j'ai un seul contrat avec vous. Dieu ne me réclamera le sang de personne. Parce que j'aurai fait ma part. En disant la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais vous êtes libre de fuir la vérité. Dieu ne fait que ce qui est bon pour vous. Et quand il dit que quelles que soient les circonstances, même quand on vient de t'appliquer 4 gifles en plein public,
allez, retour 2 fois.
Dis d'abord, merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu as permis ça. Mais si tu l'as fait, c'est parce que c'était bon pour moi. Ça fait mal, hein. Mais tu dois dire, je ne sais pas pourquoi tu joues encore Seigneur. Je sais que tu as certainement raison. Mais franchement, donne-moi le calme. C'est ça qu'il appelle toutes sortes de grâces et de bénédictions. Vous voulez quelque chose et vous ne regardez que ça. Tu veux peut-être l'argent pour faire un voyage. Et tant que tu n'as pas l'argent, tu pleures. Dieu t'envoie quelqu'un qui veut être ton ami. Tu le cherches parce que tu n'as pas besoin d'amis, actuellement tu as besoin d'argent. Alors que lui, il a une voiture et demain, il va à l'endroit où tu veux aller. Et si vous étiez ami, ce soir tu vas découvrir qui voyage et tu vas faire un voyage gratuitement dans sa voiture. Et là-bas, tu vas habiter gratuitement dans sa maison. Et il va te nourrir en plus et il va te ramener. Mais tant que Dieu n'a pas envoyé l'argent, les 10 000 fois que tu voulais pour aller partout, tu goûtes. Tu refuses de le louer. Tu vois pas que tu es bête. Vous êtes bête chaque fois que vous pensez. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Le mot bête ici n'est pas une insulte. C'est un adjectif qui qualifie la situation de celui qui n'est pas intelligent.
Quand
je dis bête, les gens, les gens m'écrivent pour dire que je cite les gens. Moi, je ne cite personne. Les mots insensés. Je les emploie dans les choses qu'ils ont. Oh, bête. Mais c'est pas un synonyme que je ne connais pas. C'est-à-dire que vous voyez, Dieu dit que lui qui sait tout, lui qui est partout, lui qui t'a créé, lui sans lequel tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas te réveiller s'il ne veut pas. Mais c'est pas toi qui te réveille. Pourquoi tu veux gérer ce qui se passe quand tu t'es réveillé? Si Dieu ne te réveille pas, tu peux te fâcher pour te réveiller. Après, quand il ne te donne pas quelque chose, tu veux te fâcher pour l'obtenir. Mais tu te prends pour qui? Va à la morgue. Si tu retires le souffle de vie là, tu n'es pas meilleur comme mouton qu'on vient d'écraser. Les mouches arrivent en même temps, c'est dur. Les morguets te jettent comme caillou. Il faut aller voir là-bas pour arrêter de faire le
mariage.
Nous ne sommes rien. Ce que Dieu fait pour toi est toujours le meilleur. Mais imaginez Joseph. Un petit garçon qui n'a rien fait. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont maltraité. Il est devenu esclave. Mais il a pu devenir aigri. Complexé. Impoli. Devenant rebelle. Endurci. Mais où est Dieu? Il continue à savoir que Dieu est fidèle, d'avoir un bon comportement, d'obéir à son Dieu, de refuser de pécher. Il y a beaucoup de gens ici. Si quelqu'un te maltraite et sa femme veut coucher avec toi, ils vont même dire youpi, bon, je vais te dommager ma peine. Joseph dit non. J'obéirai à Dieu. Je resterai fidèle à Dieu. Pendant des années, il a loué Dieu. Il a obéi à Dieu. Alors que rien dans sa situation ne pouvait permettre de dire qu'il est en train d'être béni. Mais quand Dieu a fini de le préparer, de le rendre endurant, de l'entraîner, de l'éprouver, mais c'est un autre Dieu que Dieu a changé sa vie. Mais Dieu te travaille. Il te prépare. Il a fait te sculpter. Au premier coup de l'outil du sculpteur, si tu vois, ne vois pas qu'il fait une belle statue. Vous devez louer Dieu pour tout. La douleur est parfois une grande bénédiction. Il y a des choses qui t'arrivent juste pour que tu aies quelque chose. Certaines portes qui sont fermées sont un cadeau de Dieu parce qu'il veut t'obliger à prendre une autre porte qu'il a ouverte et que tu ne voyais pas depuis. Il y a des choses que Dieu permet parce qu'il veut briser ton impatience. Pardon, j'étais quelqu'un de très impatient. Mais Dieu a brisé mon impatience. C'était pas agréable. J'ai pleuré. Je me suis énervé. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. J'ai dû rester calme.
Énervé.
Quand je suis resté calme, j'ai
devenu ma deuxième matière.
Aujourd'hui, je ne peux rien faire pour m'énerver. Est-ce que ce bénéfice-là ne vaut pas infiniment plus que le sacrifice payé? C'est là où la parole de Dieu nous dira que après avoir souffert un peu de temps, vous allez récolter un poids éternel de gloire. Mais quand Dieu te donne ce qui va te donner le poids de gloire, pourquoi tu n'es pas content et tu boudes?
Tu dois rendre grâce à Dieu pour tout. Des fois, tu te retrouves dans le feu. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Mais où est-ce que Dieu a dit qu'il va t'éviter d'aller dans le feu s'il est vivant? Il a même promis que tu marcherais dans le feu. Dieu promet que tu marches dans le feu. Tu marches dans le feu. Et tu pleures. Et tu dis que tu es un homme de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu as la foi. La parole de Dieu dit que tu marcheras dans le feu. Le feu arrive. Tu pleures. Pourquoi?
Mais le feu est une bénédiction.
Pourquoi le feu est une bénédiction?
Ce
n'est pas une bénédiction peut-être pour toi apparemment.
Mais
est-ce que quelqu'un aurait connu Meshach aujourd'hui?
Ou
Abednego? S'il n'avait pas été dans le feu, si quelqu'un voulait le mettre dans le feu, il avait prié. Et puis Dieu a fait en sorte que le roi décide qu'on ne le mette plus dans le feu.
Vous
croyez que quelqu'un a même écrit ça? Quelqu'un a écrit ça? C'est une histoire éternelle. Parce que Dieu a permis qu'ils aillent dans le feu. Que le monde entier voit qu'ils soient dans le feu. Qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Si c'est humainement, tout le monde est d'accord que c'est fini pour eux. Humainement, c'est fini pour eux. Si leur reste une dernière prière à faire ou pleurer, ils devaient le faire en même temps.
Donc
on ne peut pas dire qu'ils ont été forts, qu'ils ont été chanceux ou n'importe quoi. Et pour être sûr que le feu était vraiment fort, quand ils en sont sortis, alors que le feu avait déjà dû baisser d'intensité, les gens qui sont approchés du bord du feu sont morts brûlés. Voilà des gens comme ça. Ils sont dans le feu et ils sortent du feu. Leurs vêtements sont frais comme s'ils sortaient du climatiseur. Ils ne sentent même pas la fumée. Ils n'ont pas été enflammés. Ils n'ont pas été brûlés. On appelle ça une démonstration de force. Dieu veut que ta vie démontre sa puissance. Vous faites une prière que vous ne connaissez pas sa valeur. Je vous
l'ai
dit. Seigneur, que ma vie te glorifie. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire que votre vie glorifie Dieu? Si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne va pas porter de fruits. Pour que ta vie glorifie Dieu, ta vie doit être réclamée par Satan. Et Dieu va laisser Satan jouer avec ta vie. Et au moment où Satan va crier « Youpi !» et que le monde dira « Voilà, il a eu son compte !» Dieu dit maintenant « Regardez, petit relève-toi, Lazare sort. » Et là le monde dit « Quoi ?» Dieu est grand. On a dit à Jésus que Lazare était en train de mourir. Jésus a fait exprès de traîner. Parce que s'il était parti le guérir, on allait parler de Lazare comme une des nombreuses personnes que Jésus a guéri. Mais il fallait que Lazare meure. Pour que la vie de Lazare glorifie Jésus, c'est-à-dire que Jésus tire la gloire de la vie de Jésus, Lazare, il fallait qu'il n'y ait plus d'espoir pour Lazare. Il fallait qu'il meure. S'il vient rapidement, on va dire que peut-être qu'il n'était pas encore bien mort, il s'est réveillé.
Donc,
Jésus l'a laissé mourir et pourrir. Et le tombeau sentait déjà mauvais. Il y a des choses dans ta vie qui sont mortes. Pourri depuis longtemps. Les hommes savent qu'il n'y a plus rien là. Toi-même, tu crois qu'il n'y a plus rien là. C'est maintenant que Jésus va venir. C'est maintenant que Jésus va dire Lazare sort.
Aïe, 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 alléluia. On doit dire là, à Jahavé.
Imputer ton sauvetage à quelque chose de naturel,
Tu ne peux pas être glorifié par ton
sauvetage.
Si en te sauvant, on peut dire que c'est une relation qui t'a sauvé.
Si en
te sauvant, on peut dire que c'est ton patron qui t'a sauvé. Si
en
te sauvant, on peut dire que c'est ton mari qui t'a sauvé. Si toi-même et les autres, vous pouvez imputer ton salut à quelque chose.
Dieu
ne peut pas être glorifié par ton salut. Parce qu'il aurait partagé sa gloire avec ces choses-là. Donc Dieu laisse les choses pourries jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'homme ne peut plus rien faire. Quand on est sûr que l'homme ne peut plus rien faire, Dieu fait ce que lui seul sait faire. Cela veut dire que plus sombre est ta nuit, plus proche est ton jour. Quand la nuit n'est pas encore tout fue, il est 20h, 21h, 22h, il te reste beaucoup de temps à passer dans la nuit avant le matin. Mais quand tu arrives vers 3h du matin, la nuit est totale, opaque et absolue. À ce moment-là, si tu avais envie de te suicider, c'est le moment
pas
de suicider. Mais c'est à ce moment-là qu'on est proche de 4 heures. C'est à ce moment-là qu'on est proche de 5 heures. Si tu as encore quelques minutes, le soleil va revenir. Est-ce que tu vas mourir avant le lever du soleil? Alors que tu es proche de la fin, c'est maintenant que tu vas agir. Tu dois lui rendre grâce d'avoir permis que ça pourrisse au point d'atteindre le niveau où lui va
mener.
Quand on met une graine en terre, si je mets le maïs en terre, et chaque jour je viens le voir, et le maïs est intact, ça n'a pas pourri, il peut y avoir une plante qui va sortir de là. On peut espérer une plante, on peut espérer des fruits, le jour où la graine a pourri. Est-ce que ta graine a suffisamment pourri? Est-ce que ça a suffisamment pourri? Si ça n'a pas pourri encore, remercie Dieu que ce soit en train de pourrir. Parce que quand ça aura fini de pourrir, c'est à ce moment-là que Dieu va maintenant
descendre.
Et c'est pour ça que même quand ça pourrit, tu dois remercier Dieu. Il a dit quoi? Il a promis que tu marcheras dans le feu, mais que tu ne seras pas brûlé. La promesse de Dieu n'est pas de t'éviter le feu, c'est que le feu ne te brûle pas. Il a dit que tu seras dans la cage au lion, mais que le lion ne te mangerait pas. Il n'a pas promis de te faire éviter le lion. Il a promis que le lion ne pourra pas te manger. Il y a des lions de créanciers qui sont derrière toi. Chaque jour, tu es sûr que c'est le dernier. Mais depuis là, le cœur d'entre temps est enfermé. Ça veut dire que tous les jours, le lion est là. Il ouvre sa bouche, mais il ne t'abat jamais. Et tu ne dis jamais merci à Dieu. Comme si les gens avaient claquage au lion, pleuraient de voir des lions, au lieu de remercier Dieu que la bouche du lion soit fermée. Tu es dans le feu. Le feu ne te brûle pas. Et tu pleures parce que tu es dans le feu. Au lieu de sauter parce que le feu ne te brûle pas. C'est ça l'ingratitude. Et celui qui n'est pas fidèle dans la petite chose, Dieu ne peut pas lui donner de grandes choses. Et Dieu t'attaquera, mais on ne te vaincra pas. Moi, on m'attaque tous les jours, mais je m'en moque. Je ris, je chante, et je danse, parce que personne ne m'a convaincu. Et personne ne pourra me vaincre. S'il n'est pas vaincu dans le monde, il ne peut pas me vaincre avec Jésus-Christ. Mais c'est tout mon problème. Quand on m'attaque, ce n'est pas un problème. Parce que le maître a promis qu'on m'attaquera. Il dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations. Mais c'est une promesse de Dieu. C'est pas une promesse de Dieu. Il y a des promesses que vous ne croyez pas. Donc, vous croyez ce que vous voulez dans la Bible. Il a promis. Vous aurez des tribulations. Ils vous attaqueront. Ils vous combattront. Il a promis. Il a dit si on a persécuté le maître, on vous persécutera. Pourquoi tu pleures quand tu persécutes? C'est simplement la preuve que Jésus ne mentait pas. Ne regarde pas si on te persécute pour être heureux. Mais regarde qu'ils ne sont pas en train de te vaincre. Quand ils t'attaquent par un chemin, regarde par combien de chemins ils fuient après. Mais si tu ne regardes jamais comment
voyez fuir. Tu pleures tous les jours parce qu'on t'attaque. Au lieu de regarder leur fuite pour rire. Ce que vous regardez détermine comment vous vous sentez. Il y a des gens, quand tu leur remets un verre qui est plein à moitié, ils commencent à pleurer et à se plaindre. Pourquoi tu n'as pas rempli le verre? Tu as dû le remplir. Ils ne voient que le fait que le verre est à moitié vide. Alors que nous dira merci de m'avoir donné un verre à moitié plein, tu pouvais ne rien me donner. Pourquoi vous ne remerciez pas Dieu de vous donner une vie à moitié pleine? Si tu es ici, c'est que tu fais partie des gens les plus chanceux. Personne ici ne me dira qu'il a des problèmes insurmontables. Ceux qui ont des problèmes insurmontables, et encore, ce n'est pas insurmontable, allez les voir dans le département des CD au CNHU. Vous allez avoir honte. Quel problème tu as ici qui vaut ça? Allez voir les gars, ils sont là, pourris, ils restent en brin de balai, ils chient là, ils font pipi là, toute la pièce sent mauvais. Quand tu le vois, tu as envie de vomir. Toi, tu as ça?
Hein? Ba foto ko kuli bobo ka ki kuni me so si chite so si wa de so pe de dia bo fie de o na dado de fie de o na safodo fie de o na mro fie de o na dunu de
c'est les agents d'entretien qui finissent de temps en temps par le laver comme le sol pour au moins rendre les lieux propres.
Hein?
Parce que la plupart des gens ne parlent pas de
ça.
Allez voir les gens qui sont brûlés. Accident brûlé sur tout le corps au troisième degré. Il n'a même pas l'argent pour payer des médicaments anti-douleur. C'est ça qu'on appelle un problème. Allez voir les gens qui ont le cancer. Et on leur dit, leur reste un mois à vivre. Et ils comptent les jours jusqu'à leur mort. C'est ça le problème. Quel problème toi tu as? Un mari t'a laissé. Il est mort, tu es morte. Tu es vivante, quelqu'un d'autre t'épousera. Arrêtez de regarder ce qui ne va pas. Concentrez-vous sur ce qui va. Quand vous concentrez ce qui ne va pas, vous vous concentrez sur les œuvres du diable. Quand vous concentrez ce qui va bien, vous concentrez sur les œuvres de Dieu. Si vous concentrez sur les œuvres de Dieu, vous allez vous connecter à la puissance de Dieu. Il va arriver tout le reste. Mais quand vous connectez à ce qui ne marche pas, vous connectez à la puissance du diable. Vous êtes découragé. Vous êtes effrayé. Et quand vous êtes effrayé, vous abandonnez. Quand vous abandonnez, Satan gagne. Pas parce qu'il devait gagner, mais parce que vous le laissez gagner. Vous le laissez gagner. Vous devez louer Dieu. Quand tu pries, des fois Dieu te donne ce que tu veux. Mais même quand il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne beaucoup d'autres choses. Je vais vous donner quelques exemples de choses que Dieu donne. Et quand vous saurez voir ce que Dieu donne, vous allez avoir honte de dire que vous avez des problèmes. Moi je n'ai aucun problème. Hein. Quelque chose peut ne pas aller. Mais ce qui va est tellement nombreux que j'ai même honte de dire à Dieu que cela ne va pas.
Puis,
même si le pire arrivait, le pire qui puisse arriver, c'est que je meurs. Si je meurs, je vais voir le Père. Je vais me reposer. Alors, pourquoi ça va m'inquiéter? Rien ne peut m'inquiéter. Satan ne peut qu'être vécu dans ma vie parce que je n'aime plus ma vie jusqu'à que ma mort. Je vais avoir peur de mourir. Pourquoi? Pour mes enfants, le plus petit a 3 ans. Et c'est lui qui te dit de peine ou mal quand tu commences à te stresser. Alors, je vais m'inquiéter de quoi qu'il connaît Dieu. À 3 ans.
Je vais travailler pour l'église.
Alors, quel petit connaît Dieu? Qu'est-ce que moi je peux le faire que Dieu peut pas faire pour lui? Si je meurs aujourd'hui, il n'aura aucun problème. C'est pas moi qui m'occupe de lui, c'est Dieu qui s'occupe de lui. Alors, je vais avoir peur de mourir, pourquoi? C'est moi qui ai décidé de naître. Et quand je me couche, c'est moi qui décide de me réveiller. Oh, vous voulez que je me stresse parce que je n'ai pas fabriqué? Je ne me suis pas fabriqué. Si celui qui m'a fabriqué dit que ça suffit, c'est son problème.
Attends, pico.
Pourquoi vous voulez qu'on se prenne plus au sérieux qu'on ne
l'est?
Tu veux faire quoi? Tu peux te fatiguer, tu ne vois pas plus de 100 ans. 100 ans c'est quoi? 100 ans c'est quoi? Même les arbres vivent plus longtemps que les hommes. Donc arrête de te fatiguer. Quand tu pries, je vais te donner pour terminer un rappel de quelque chose que Dieu fait. Des fois tu as peur, tu es une situation où tu as peur, tu paniques, tu pries. Dieu n'a peut-être pas réglé le problème, mais immédiatement tu as une grande paix. Cette paix là te permet de réfléchir. Cette paix là
te permet d'écouter les instructions de Dieu. Cette paix-là te permet de ne pas faire tes erreurs. Cette paix-là permet de calmer tant que la solution arrive. Cette paix-là désactive et effraie tes adversaires. Donc, Dieu ne t'a pas donné ce que tu veux. Mais en te donnant cette paix-là, que tu ne pouvais rien payer pour avoir, il va te donner une sorte de bénédiction de grâce, telle grâce. Tu es là, tu as un problème. Dieu envoie quelqu'un qui vient prier pour toi, qui t'envoie un message édifiant. Ou bien, comme par hasard, quelqu'un vient te croiser en parlant avec lui, tu découvres que il est la solution à ton problème. Mais le problème, c'est quoi? Quand le problème arrive, vous avez tellement peur, vous êtes tellement stressé que vous n'avez plus la tête à parler avec personne. Vous ne voulez plus rien entendre. Donc, même celui que Dieu a envoyé pour régler ton problème, tu ne veux plus l'entendre. Tu ne veux plus lui parler. Les frères et les soeurs là, quand ils sont dans le péché ou qu'ils sont accablés par la vie, au lieu de venir à l'église pour chercher du confort, purifie l'église. On dit j'avais des problèmes. Je me suis éloigné. C'est quand on a des problèmes, quand c'est loin de là où il y a des gens moins pour régler les problèmes. Mais Dieu envoie toujours la bénédiction par un frère. Donc quand tu as un problème, il faut aller voir un autre frère. C'est pour ça que Dieu dit que là où deux ou trois d'entre vous traînent, il est là au milieu de toi. Quand il y a quelqu'un à côté de toi, Dieu peut régler tes problèmes. Parce que quand tu es dans le problème, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Toi-même, tu es trop paniqué. Tu n'es plus concentré. Dieu a besoin d'un autre chrétien auquel il a donné une instruction. Donc quand vous êtes deux, vous êtes trois, tu as des moyens d'action. Mais quand tu es seul, quand ça t'attend un peu ce matin, tu n'es même plus réceptif. C'est pour ça que la Bible dit que quand deux personnes marchent ensemble, quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais quand toi tu tombes, tu fuis ceux qui peuvent te relever. Et tu te crois malin parce que tu es orgueilleux. Tu ne veux pas conscience que tu as des problèmes. Tu vas être détruit par ton orgueil. Si tu connais des gens en cas de problème, approche-toi de ces gens. Quand tu as des problèmes et tu pries, écoute ton cœur, Dieu va te donner des idées. Et si tu appelais telle personne, et si tu allais faire telle chose, et si tu ouvrais tel livre, et si tu allais à tel séminaire, et si tu appelais le pasteur, et si tu allais voir ta maman, ils vont vous dire, moi j'ai tel problème, allez voir maman, c'est pas maman. Attention. Quand dans une situation, une idée saugrenue vous arrive à la tête, faites attention. J'ai gagné 110 millions l'année dernière comme ça. Je lançais une opération et je cherchais l'argent que je ne trouvais pas. J'avais déjà écrit à une série de personnes. Je me suis arrêté, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, le truc me dit, mais renvoie à telle personne. Je me suis dit, mais je lui ai déjà envoyé. La chose me dit, renvoie lui. Et mais j'ai déjà envoyé. C'est vraiment comme ça, je lui ai dit, bon, je vais vérifier cela aussi. Je l'ai appelé. Est-ce que vous avez reçu? Ah non, renvoyez-moi. J'ai renvoyé, je suis parti de mon bureau. C'était un soir vers 23h. Le lendemain à 10h, la personne m'a appelé. Elle m'a donné 110 millions en 48 heures. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, appelle cette personne. Je n'avais aucune raison parmi toutes les personnes que j'ai écrites de côté sur elle. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand nous adorons Dieu et qu'il parle à notre cœur, de ne pas endurcir l'oreille et de ne pas arrêter le
cou.
Tu es en guerre avec quelqu'un. Dieu dit, va lui demander pardon. Tu t'énerves encore. Tu veux pas avoir un problème. En plus, je vais lui demander pardon. Tu ne sais pas ce que tu attends. Je connais des gens. Ils sont partis demander pardon. Ils quittaient de là. Quand ils ont croisé quelqu'un avec qui ils ont fait une affaire 10 minutes. Tu es terrible. Il ne faut pas faire le malin. Non, pas beaucoup de temps. Je vais devoir m'arrêter. Je vais continuer ce message dimanche prochain. Mais il faut arrêter de faire le malin. Dieu est plus malin que toi. Et il sera toujours plus malin que toi. Je ne veux insulter personne. Mais à moins d'être bête, quand Dieu dit de faire quelque chose, il faut mieux faire. Tu ne peux pas faire des raisonnements pour dire que oui, mais dans ce cas-là, tu ne connais rien au cas. Ça fait une éternité que Dieu voit tous les cas. Il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passera. Alors, tu serais vraiment idiot d'avoir une idée meilleure que celle de Dieu. Retiens ça.
Chaque fois que tu as l'impression d'avoir une idée meilleure que celle de Dieu, c'est que tu es idiot. Je ne suis pas prêt à t'insulter, hein, mais retiens bien pour tes messages. Chaque fois que tu penses avoir une idée meilleure que celle de Dieu, tu es idiot. Que Dieu te bénisse.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Dieu vous bénisse.